Deuxième partie de cette émission de l'Érégor. Donc, Jean-Michel au téléphone, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends et toi, tu m'entends correctement?
Super, super, pas de problème.
Ouais, très bien.
Alors, tu vas nous parler un peu d'un squat dans le 20e. Il y a longtemps qu'il y a eu, dans Paris même, un squat important, comme tu vas nous parler, puisque le dernier, je crois, faut remonter à la CICP, il y a quelques années de ça. Et depuis, c'était rien passé. Alors, dis-nous un peu comment que ça s'est passé au début et qu'est-ce qui se passe.
Ouais, bon, alors d'abord, désolé d'intervenir si tard et puis de pas être sur les lieux. Malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas pu intervenir. Il y avait des habitants qui étaient avec nous. Donc là, malheureusement, j'étais obligé de rester sur mon travail. Donc, moi, j'interviens en tant que soutien de cette occupation puisque j'ai l'immense privilège de bénéficier d'un logement à Paris. Dans des conditions certes précaires, mais je suis pas dans l'obligation de squatter. Alors en fait, cette occupation, elle est effective depuis le 8 juin. Depuis le 8 juin, il y a une quarantaine de personnes qui se sont installées dans un immeuble vide situé au 260 rue des Pyrénées. Et cette occupation, elle est comment dire, le résultat de l'action de plusieurs collectifs de mal logés et de squatteurs du 20e. De plusieurs collectifs de mal logés indépendants, c'est-à-dire que ce sont des collectifs qui se basent en général sur l'arrondissement et qui se disent indépendants parce que ils s'incarnent pas soit dans la constellation des associations qui sont dans la mobilisation sur le droit au logement, type DAL, ou comment ça s'appelle la confédération, ou tous les trucs qui sont liés aussi également aux syndicats. À noter par ailleurs que ce matin il y avait une action de la part de ces collectifs qui étaient au ministère pour réclamer un encadrement des loyers. D'accord. Donc en fait, depuis bientôt un an, deux ans, il y a eu cette agitation et ces rencontres avec ces différents collectifs et ces squatteurs. Et ces rencontres, cette agitation, elle s'est incarnée dans une manifestation qui a eu lieu à Paris le 7 mars, dont on avait parlé sur cette antenne. Cette manifestation, elle mettait en avant la situation extrêmement critique du logement à Paris. Bon, évidemment, tout le monde s'en doute, habiter à Paris, ça devient de plus en plus difficile, c'est même quasiment impossible, et la nécessité de passer des paroles aux actes, c'est-à-dire des paroles, non seulement réclamer ce droit opposable au logement, là, ce DALO, dont on avait entendu parler à l'issue de l'action des Don Quichotte, mais aussi d'arrêter justement de se battre sur le terrain judiciaire et de passer au concret, quoi, c'est-à-dire de récupérer des logements vides. Or, dans le 20e, des logements vides, il y en a énormément, puisque le 20e arrondissement, qui est un arrondissement encore populaire, pour les non-parisiens, le 20e, c'est Belleville, c'est Ménilmontant, c'est la rue des Pyrénées, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment un coin qui est historiquement le lieu d'habitation des classes populaires. Et cet arrondissement subit ce qui est à l'œuvre dans Paris et dans le Grand Paris, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sociologie de manière savante la gentrification des quartiers. Alors la gentrification, c'est quoi? C'est un processus social par lequel le profil sociologique d'un quartier change. Un quartier où les logements sont plutôt bon marché, qui se retrouve investi par des classes qui ont les moyens d'acheter rapidement et de s'installer dans ces quartiers et qui augmentent la pression sur les loyers, qui changent également la sociologie du quartier. Donc vraiment, le 20e, c'est depuis 3 ans ce qui se passe. Ce phénomène, il a lieu également dans la première couronne, hein, on en avait aussi parlé ici, Pantin, etc., etc., sont des quartiers de Paris qui voient leur sociologie changer profondément. Et donc, cette occupation, elle est exemplaire à plus d'un titre. D'abord, on peut parler du lieu, donc le 260 rue des Pyrénées. C'est un lieu qui est inoccupé depuis mai 2010, et c'est un lieu qui appartient à bailleur social. Bailleur social s'appelle Toi et Joie, tout un programme, évidemment. Et ce bailleur, il est lié institutionnellement à la Poste. En effet, vous savez, par l'intermédiaire des 1% logement, des montages des bailleurs sociaux, etc., il y a des entreprises qui sont amenées à cotiser, hein, sur, c'est une part du salaire, de notre salaire, du salaire différé, qui est investi dans la construction de logements sociaux et qui, normalement, permet à des demandeurs de logements sociaux de bénéficier d'un accès prioritaire aux logements sociaux qui sont construits avec cet argent-là.
C'est ça.
Donc, ben voilà quoi, hein, ça faisait 2 ans que ce logement, alors ce logement, enfin ces logements, parce que c'est quoi? C'est en fait une 60aine de chambres réparties sur 5 étages, quand même.
Ouais, donc, c'est quand même.
C'est pas rien quoi. Hein. Ouais. Ben donc, ce logement était vide et il a été investi quoi. Cette occupation, je crois que elle démontre clairement. L'inefficacité totale des politiques du logement social, quoi. Puisqu'aujourd'hui, le logement social, c'est vraiment devenu un business, hein, pour les municipalités et puis pour les bailleurs sociaux, quoi. En l'occurrence, toi et Joie, le bailleur social, a, par une opération immobilière l'année dernière, a racheté 20% du patrimoine immobilier de la Caisse des dépôts et consignations, encore du pognon public, entre guillemets, qui est utilisé pour faire des profits, et ça s'est ressenti tout à fait puisque les loyers ont augmenté quoi. Il y a également des plans, des PLS, hein, des plans logement social qui sont mis en œuvre par la ville de Paris. Et ces PLS, en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'ils sont accessibles à des revenus inférieurs ou égaux à 3 050 € par mois. Pour une personne seule ou pour un couple. Hein. Donc on voit un petit peu le niveau, le degré du logement social à Paris. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, très important. Le 20e, et plus particulièrement la rue des Pyrénées, ça fait partie de la circonscription de Cécile Duflot. Cécile Duflot qui s'est fait élire comme dans un fauteuil dans cet arrondissement, et Cécile Duflot qui est ministre du logement. C'est pas le terme exact du ministère, mais voilà, elle est en charge du logement quoi. Donc c'est aussi également une fort bonne illustration de voir comment la gauche, hein, ce changement là va traiter avec des occupants quoi.
Non.
Donc voilà quoi.
Dis-nous un peu ce qui s'est passé depuis le 8 juin, donc, les gens sont arrivés, ils sont organisés, je suppose. Comment que ça se passe là-bas?
Alors, comme je te l'ai dit, il y a également quelque chose de très intéressant, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur le fond, évidemment, on peut supporter qu'encourager des réquisitions d'office et des occupations de ce type-là, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la volonté des occupants et de leur soutien de mettre en œuvre un mouvement, une lutte sur le logement qui soit aussi, comment dire, à l'image de ce qu'ils défendent, quoi. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit de se réunir pour trouver des moyens collectifs et trouver collectivement des moyens, bien sûr, de résoudre directement leurs problèmes, de s'auto-organiser, c'est-à-dire en fait de décider collectivement et de manière la plus égalitaire possible ce qui est bon pour les mal logés, et de pas attendre que ce soit des spécialistes qui leur disent quoi faire ou des représentants qui leur disent quoi faire et comment faire quoi. Donc pour l'instant, évidemment, ces actions de précaires et de mal logés, elles se basent sur l'occupation de bailleurs sociaux, l'occupation de logements, quoi. Mais ils ne comptent pas en rester là, puisque à l'intérieur des locaux, il y a une partie de ce squat, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui est destinée à servir à l'organisation de ce mouvement, et qu'il faut que pour que cet espace soit un espace de vie, un espace d'habitation, mais également un espace de lutte.
D'accord.
Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant, puisque elle permet à la solidarité de s'organiser et au soutien de trouver une raison d'être supplémentaire à celle de simplement supporter l'occupation. Et cette pratique, elle se traduit également par une agitation permanente, c'est-à-dire le refus de rester dans une espèce de stagnation, c'est-à-dire de se contenter d'occuper ces bâtiments et puis d'aller, j'allais dire, de faire le gros dos, quoi, puisque des squats dans Paris, il y a tous ceux qu'on connaît, puis qu'on des squats d'habitation, puis il y a tous ceux qu'on connaît pas, quoi. Hein. Il y en a énormément, quoi, parce que vu l'état des faits, par exemple, dans le 20e, on estime à 12 000 environ le nombre de demandeurs de logements sociaux qui sont en attente. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement important, quoi. Donc il y a des tas de gens qui doivent occuper dont on ne sait pas, et justement cette occupation, elle vise aussi à dire aux gens, ben vous pouvez vous manifester, hein. Je te cache pas que depuis 4 semaines qui est ouvert le 260 rue des Pyrénées, il y a des dizaines de personnes qui passent chaque jour pour pouvoir se loger, demander à pouvoir habiter dans cet espace. Malheureusement, évidemment, les capacités d'accueil, elles sont extrêmement limitées, mais il y a par exemple des ateliers qui se mettent en place, puisque les gens qui ont un petit peu plus d'expérience dans la pratique du squat se proposent de mutualiser leur expérience pour que justement ces personnes qui viennent demander un hébergement puissent eux-mêmes s'auto-organiser pour ouvrir des squats. L'idéal, évidemment, ça serait que 10, 20, 30, 40, 50 occupations dans le 20e et ailleurs, bien évidemment, puissent se faire pour que justement ils puissent établir un véritable rapport de force. Alors, il y a quand même des revendications qui sont mises en avant, hein, et qui sont défendues par une pratique quasi quotidienne. Les revendications, je te l'ai dit, donc ce sont des logements sociaux pour tous ceux qui en ont besoin, et notamment celles et ceux qui sont occupants du 260. Le maintien du 260 comme lieu d'hébergement provisoire et comme lieu d'organisation de la lutte, des papiers pour tout le monde, et notamment pour celles et ceux des habitants qui en auraient besoin, et une solidarité effective avec le CREA, donc le CREA qui est un collectif de gens qui squattent, les Toulousains savent de quoi on parle quand on parle du CREA, mais il y a également un lien qui est fait avec cette occupation-là, puisque les problématiques, elles sont identiques, quoi. Je te parlais d'une agitation et d'une mobilisation quasi quotidienne. En fait, il y a des actions toutes les semaines. Alors, des actions qui sont à la fois pour maintenir le rapport de force, c'est-à-dire des envahissements des permanences des députés, des permanences des mairies, des permanences des bailleurs sociaux. La semaine dernière, il y a eu une occupation de Haute-Paris, puisque il y a des gros problèmes avec l'électricité et la flotte. En gros, l'électricité est très faible et la flotte, jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Donc il y a toujours cette pratique-là pour qu'il y ait du retour, et puis pour que les habitants et les soutiens se mobilisent régulièrement. Alors ainsi, dès le 11 juin, en fait, il y a une délégation de 5 personnes qui s'est rendue à Toi-et-Joie pour déclarer l'occupation du lieu et puis s'assurer de la pérennité de ce lieu. Évidemment, le bailleur a refusé de les laisser entrer et a appelé la police, hein. Donc les 5 personnes qui avaient normalement été constituées en tant que délégation ont subi un contrôle d'identité. Le même mépris a en fait caractérisé la rencontre du 13 juin au cabinet de la ministre du Logement. Il y avait un rendez-vous qui avait été pris lors d'une intervention des habitants lors d'un meeting le 7 juin, c'est-à-dire avant les élections. Évidemment, Duflot a pas daigné recevoir les gens. Une délégation de 4 personnes a été reçue par le directeur adjoint du cabinet, monsieur Archimbaud, par Pauline Neveu, conseillère parlementaire. Et le seul engagement qui a été pris par le ministère, hormis le fait évidemment de dire qu'ils n'avaient pas de pouvoir, hein, qu'ils étaient par principe contre les expulsions sans logement, le seul engagement qu'il y a eu, c'est que la procédure judiciaire devra être respectée, quoi.
Voilà. Ouais,
c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire qu'il pourra pas y avoir d'expulsion sans procédure judiciaire. Alors, petit truc positif quand même, le jugement qui devait avoir lieu le 20 juin a été repoussé au 13 septembre.
D'accord.
Donc, en l'état des choses, l'occupation, elle est préservée, jusqu'au 13 septembre, quoi.
D'accord.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, quand même, faut le signer, oui.
Par rapport à l'eau, je crois qu'il y a eu une petite victoire, tout de même, non?
Alors, par rapport à l'eau, donc il y a eu occupation d'eau de Paris, et il y a eu le fait que cette situation, alors qu'il y avait normalement un long rendez-vous, c'est-à-dire que normalement il devait y avoir un rendez-vous technique pour savoir si c'était possible, le 16 juillet, etc. En fait, la situation, elle s'est débloquée en quelques heures, puisque... suite à l'occupation d'eau de Paris, le directeur des services qui est venu a noté qu'on a eu le droit au responsable de la communication, hein, bien évidemment, puisque désormais on ne traite plus les problèmes que par la communication et pas autrement. On a demandé à ce directeur de s'engager sur une intervention immédiate, et s'engager par la parole, et donc on lui a demandé de venir avec nous, et on lui a dit que on ne le laisserait pas partir, tant que il y aurait pas une équipe technique qui serait venue, quoi. Donc il y a une équipe technique qui est venue et qui a installé ce qu'on appelle un bric de scie, hein, c'est-à-dire une prise d'eau sur le réseau de la voie publique, quoi. Donc ça a été réglé en 2 heures, comme quoi. Ce à quoi tu fais peut-être allusion, en fait, c'est à une délégation qui a été reçue par Madame Zarka, donc une élue du 20e. Cette dame, toujours selon le même procédé, c'est-à-dire d'obliger les élus et d'obliger les responsables à nous recevoir en y descendant à plusieurs, comme quoi quand on est tout seul ça marche pas, mais quand on est nombreux ça devient tout de suite un petit peu plus facile. Cette personne, donc cet élu, a accepté recevoir une délégation. Elle s'est engagée, elle aussi, à respecter la procédure judiciaire, donc c'est pas grand-chose, quoi. Mais malheureusement, problème, suite à l'envahissement de ces locaux, il y a une vigile, qui dit être tombée et s'être fait mal, avoir été blessée, quoi. Et donc, lorsque les camarades sont sortis de la délégation, eh bien... Il y avait les flics qui les attendaient, quoi. Et suite à ça, il y a une personne qui a été embarquée, qui a été inculpée de violence volontaire en réunion, et qui passe. Alors cette inculpation de violence volontaire en réunion, elle est disjointe, mais ce camarade a refusé de subir qu'on appelle la signalétique, c'est-à-dire ADN plus photo et empreinte, et donc il passera le 20 août en procès pour ce refus de signalétique. Alors la stratégie policière et politicienne là-dessus, elle est très claire, quoi. C'est-à-dire que la dimension collective de l'action de ce jour, elle a été totalement niée au profit d'une logique de représentation et d'individualisation, quoi. Le motif de la garde à vue, il est totalement futile, hein. Mais voilà, quoi. Ouais. Chez nous, dans l'occupation, il y a pas de chef et il y a pas de porte-parole. Il y a pas l'individualisation. C'est un collectif qui se bat pour obtenir ses droits. Et donc, on refusera toujours d'avoir une individualisation, quoi. C'est-à-dire que ce camarade, il est victime de la répression qui s'abat contre nous tous, quoi. Donc là-dessus, il va aussi y avoir quelque chose d'intéressant à dire.
Tout voilà. Mais enfin, il faut espérer que le procès soit reporté, parce que au 20 août, c'est quand même difficile, hein.
Il n'y aura personne, lui il sera peut-être pas là, en plus ça va être un peu juste pour préparer sa défense. Si nous, on n'arrive pas à lancer un mouvement pendant les vacances, qui est en général la période creuse sur la région parisienne, ça risque d'être effectivement difficile pour lui. Donc voilà, quoi.
Donc il a intérêt à avoir un avocat qui demande le report du procès.
Tout à fait.
Voilà. Est-ce que tu as encore des trucs à dire par rapport à ça ou pas ou...
Ouais, de dire que si par miracle il y avait des gens qui souhaitaient soit à l'extérieur de Paris, soit à Paris même, se renseigner et venir savoir de quoi il s'agit, tous les dimanches, il y a à 17h une assemblée générale qui mêle des habitants et des soutiens à l'intérieur de la partie collective dédiée à la lutte de l'occupation. Donc ça, c'est tous les dimanches à 17h. Le mardi à 19h, Il y a des assemblées qui sont spécifiquement dédiées au soutien, et puis que de toute façon, régulièrement, il y a des choses qui sont faites en communication avec le quartier pour que les habitants proches, les voisins, puissent venir se renseigner et voir de quoi il en retourne, quoi.
Tu rappelles l'adresse?
Ouais, 260 rue des Pyrénées.
260 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, je crois qu'avant de se quitter, tu voulais nous parler de ce qui se passe en Italie.
Ouais, j'ai le temps ou pas?
Oui, ouais. Il te reste 2 minutes.
D'accord, alors oui, très bien. Oui, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, moi, parce que ça fait partie de mon histoire, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Le 13 juillet, donc dans deux jours, se tiendra auprès de la Cour de cassation de Rome l'ultime étape du procès de 10 personnes qui ont été inculpés pour des dégradations pendant les émeutes et les affrontements et les manifestations de Gênes en 2001 pour le G8. Ces 10 camarades ont été condamnés en première instance à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison, des peines très très lourdes, si on regarde en plus de tortures avérées qui avaient été faites dans la caserne de Bolzaneto et puis de toutes les violences qui avaient été faites de la part des flics. Alors c'est pas de la mise en regard, mais c'est simplement de montrer que la vengeance de l'État italien et par là même la vengeance des puissants de ces G8, elle n'oublie jamais, quoi. Elle a continué pendant 10 ans à harceler ses camarades-là et à faire passer leur exemple comme un moyen de faire pression sur l'ensemble du mouvement, quoi. Quand on sait en plus dans quel état et à quel niveau est aujourd'hui le mouvement de contestation en Italie, on pense à la lutte du Val de Susa et puis à la situation que connaît la société italienne, on peut bien évidemment que mettre ça en regard et en relation avec ces condamnations, je le répète, de 10 à qui vont jusqu'à 15 ans de prison pour des destructions d'objets, quoi. Alors le collectif qui est autour d'eux et puis ces camarades-là appellent à ce que toute la semaine il y ait des gens qui se réunissent devant les consulats d'Italie, les ambassades d'Italie pour faire part et montrer qu'on ne les oublie pas, quoi. Et puis il y a aussi un appel à la solidarité qui sera ce que chacun voudra bien y mettre, c'est-à-dire mais de remonter, parce qu'aujourd'hui évidemment 11 ans après les événements de Gênes, vous imaginez bien que ces gens-là sont bien isolés et que leurs petits copains altermondialistes et les petits altermondialistes qui étaient là il y a 10 ans, ils suivent pas le coup et ils en ont rien à cirer, quoi, et ces gens-là donc ils risquent de morfler pour l'ensemble du truc, quoi. Donc ça c'est le 13 juillet, on suivra ça, moi je vous en donnerai les nouvelles, et puis s'il y a des gens qui écoutent l'émission et qui auraient envie de faire quelques trucs, surtout il n'y a pas de petits gestes, hein, bien évidemment, je pense que eux ils sont dans une situation où quoi qu'il se passe, ça leur fera chaud au cœur et ça permettra de briser justement leur isolement et de montrer aux juges de la Cour de cassation de Rome que si eux ils n'oublient pas, nous non plus on n'oublie pas, et on n'oublie pas ce que ces flics nous ont fait dans les rues de Gênes, et de toute façon il n'y aura ni oubli et ni pardon, quoi.
Ok, peut-être se quitter et puis on te remercie bien et à très bientôt, à très bientôt,
à
donc
tard.
Pour de nouvelles aventures. Salut.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Thierry Régor. Chaque semaine, tu l'écho des Garrigues, Montpellier, Canal sur la Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Aussi sur le net à OC Libertaire et le blog Le Chat Noir 51. Les Régor, une parole anarchiste communiste.